Donc, la conférence est un cas particulier de ce colloque au sens où je présente un sujet très personnel, étant donné que les deux personnages en question, Dajou Bojavi et sa femme Wanda Goncharova Lembitsky, ont été mes arrière-grands-parents paternels. Leur participation active aux relations culturelles franco-hongroises entre les années 1910-1930 nous fait découvrir certains des liens qui tissaient le réseau social francophone et francophile de l'entre-deux-guerres hongrois, qui, dans la plupart des cas, n'est pas facile à mettre à jour, étant donné que c'est d'habitude dans les règles familiaux que leur mémoire subsiste. Dans le cas du couple Rojofi, la francophilie avait des racines toutes particulières, je dirais même hors du commun. D'une part, à cause de la diversité des milieux français, aussi bien intellectuels qu'artistiques, que le couple côtoyait pendant leur séjour en France et plus tard à partir de la Hongrie, et d'autre part, par la richesse de leur activité consacrée aux échanges culturels franco-hongrois. Tous les deux étaient des propagateurs de l'art et de la littérature contemporaine hongroise en France et vice-versa, des représentants de nouvelles tendances modernistes très en vogue en France qui concernaient surtout un mode de vie réformé. La richesse de leur parcours ne permet évidemment pas d'en faire une présentation exhaustive. Je me restreins donc à faire une ébauche de l'histoire de leurs relations françaises et l'impact de ces relations sur leur activité artistique et littéraire. Dajou Bojavi, né en 1877, a décidé très jeune de devenir peintre. Il a donc joint l'école de Nagybánya, mais parallèlement, il s'est mis à apprendre l'histoire de l'art et de la littérature à l'université de Budapest, où il a obtenu son diplôme en histoire de l'art en 1902. Et tout de suite après, il est parti en voyage pour près d'une dizaine d'années d'études artistiques, passant par Vienne, Munich, Berlin, pour arriver et s'installer enfin à Paris. Bien qu'il ait fréquenté à Paris l'Académie Julian, l'école de peinture privée extrêmement populaire au début du siècle parmi les étrangers venant à Paris, Bojavi ne voulait pas se consacrer uniquement à la peinture. Il s'est mis donc à continuer sa formation en tant qu'historien de l'art. Il est entré en contact avec plusieurs personnalités importantes de la scène artistique française moderne, telles que l'un des fondateurs du Salon d'automne, le peintre Georges Desvalières, ou Léonce Bénédicte, le directeur du musée Luxembourg, puis le premier conservateur du musée Rodin, et avec l'historien de l'art Louis Réaud. C'est aussi à Paris qu'il rencontre sa future femme, Olga Goncharova Lembitsky, issue d'une famille de la noblesse russe, rendue célèbre par Natalia Goncharova, femme de Pouchkine, dont la nièce était la mère d'Olga. Elle est née à Paris en 1881 et n'a qu'une fois mis ses pieds sur le sol russe pour une très courte durée. Elle a passé sa jeunesse en Suisse, à Lausanne, dans la colonie des émigrés russes. Elle voulait elle aussi devenir peintre, c'est pour cela qu'elle est retournée à Paris au début de 1900 où elle fréquentait l'Académie Colarossi. Dans l'entourage de la famille d'Olga se trouvaient des intellectuels et artistes aussi bien russes que français, ce qui a élargi l'horizon intellectuel de Bojavi et a déterminé leur futur rapport avec un milieu intellectuel parisien très éclectique. La figure centrale de ce milieu fut Ludmila Savitsky, la meilleure amie d'Olga, issue également d'une famille russe de noblesse ancienne. Ludmila, rencontrée par Olga à Lausanne, s'est installée à Paris en 1902 et s'est lancée tout de suite dans le monde artistique et littéraire parisien. Elle entre plus particulièrement en contact avec des juifs français. Elle se marie avec Jules Rey, écrivain et critique d'art, mort à Auschwitz en 1943. Ludmila devient actrice, mais elle écrit déjà des poèmes. À partir de 1908, elle se mêle avec Jules Rey à l'animation d'un phalanstère pour artistes à la Chartreuse de Neuville-sous-Montreuil. À l'origine de cette initiative est la création d'une villégiature dans l'ancienne Chartreuse pour les ouvriers des chemins de fer et la création d'autres activités annexes, telles une colonie de vacances et enfin d'un phalanstère appelé La Clairière. Cette appellation est un hommage à une pièce de théâtre rédigée par Lucien Descartes et Maurice Donné, dont le sujet principal est un exemple de vie communautaire, non conventionnelle et utopique. Ludmila devient le secrétaire général de l'Association de la Chartreuse, dont l'un des présidents d'honneur est Anatole France, l'autre Georges Clemenceau. De nombreux intellectuels travailleront pour faire la propagande à cette initiative, qui a eu un très grand succès. L'été 1908, près de 40 artistes se rendent à la Chartreuse, tels Guillaume Apollinaire, Paul Faure, Adolphe Guméry, Georges Isambard, qui était le professeur de lettres d'Arthur Rimbaud. L'année suivante, l'expérience est rééditée et près de 200 personnes se ressourcent à la Chartreuse. Après s'être mariées, les Rojafis se rendent également à la Chartreuse pour plusieurs mois, deux années consécutives. Et c'est ici que naîtra l'un de leurs trois enfants. Le site est accueillant pour les familles qui sont logées dans les villas, les anciens ermitages des pères, qui sont pour l'occasion aménagés comme de véritables maisons. La vie à la Chartreuse est organisée de manière à ce qu'il y ait des événements, des occasions aux artistes de se mêler, aux ouvriers, aux artisans. Des événements culturels assez variés se déroulent à la Chartreuse, des conférences, des revues théâtrales, lectures, concerts, etc. et des soirées publiques auxquelles peuvent joindre des habitants de Neuville et des environs. Cette expérience devait avoir un impact important sur le couple Rojafi, qui décide en 1910 de retourner en Hongrie et de joindre la colonie d'artistes de Gödöllő, où ils restent vivres jusqu'en 1914. Et c'est ici que naîtra leur troisième enfant. Ces expériences de vie communautaire ne sont pas uniquement d'expériences artistiques intellectuelles, mais elles ont une forte influence sur le mode de vie qui entre dans le paradigme qu'on appelle aujourd'hui le mouvement de réforme de vie, un mouvement qui était principalement critique de l'urbanisation et de l'industrialisation. Ce mouvement a influencé de nombreuses communautés jusqu'au milieu du XXe siècle, dont l'exemple hongrois le plus connu est notamment la colonie de Gödöllő. J'attire votre attention qu'en ce moment même, une exposition rétrospective ici à Budapest, à Műcsarnok, présente ce mouvement européen et ses rapports avec l'art en Hongrie aussi. Le slogan de ce mouvement, le retour à la nature, la recherche d'une synthèse entre nature et culture, la recherche de l'unité cosmique perdue et de la spiritualité, s'exprime tout d'abord dans un culte de la santé, priorité au végétarisme, à la culture physique, aux activités sportives telles que le ski, la natation, le tourisme et à l'homéopathie. Et d'autre part, il y a une grande attention portée à l'éducation de l'enfant d'après les prémices de la nouvelle pédagogie. Et à un niveau supérieur, il comprend en soi une exigence spirituelle, la recherche de nouvelles formes de religiosité, comme par exemple la théosophie moderne, qui connaît sa période de floraison en Hongrie dans les années 1910, entre 1910 et 1920. L'un des centres de cette réforme de vie était Gödöllő. La famille Rojafi s'intègre facilement dans la vie communautaire de Gödöllő, dont plusieurs membres sont également des adeptes de la théosophie. Les Rojafi sont déjà depuis plus longtemps imprégnés des idées théosophiques, sous l'influence de leur entourage russe à Paris, particulièrement engagés dans la diffusion des principes théosophiques à cette période-là. Rojafi devient même le rédacteur de la périodique de la Société théosophique hongroise intitulée Théosophie entre 1912-1915. Mais en 1914, il choisit de trouver un poste civil pour ne plus exposer sa famille à cette vie de bohème. Il entre en service public au Musée des Beaux-Arts de Budapest et devient rapidement conservateur en chef du musée, un poste qu'il gardera jusqu'à sa mort. Ce retour à une vie plus bourgeoise ne les empêche pas de rester ancrés dans un mode de vie non conformiste. Leurs enfants fréquentent le premier établissement scolaire de Budapest, entièrement voué à la nouvelle pédagogie, appelée New School, Nouvelle École, fondée par la célèbre pédagogue Emma Leubach. Rozsafy lui-même tient des conférences dans la Société théosophique sur la pédagogie moderne. Ils sont également très liés avec les représentants hongrois, comme Valéria Dienes ou Alice Magyar, de la danse libre, la danse rythmique, très populaire à cette époque-là parmi les artistes. Bien que Madame Rozsafy ne parle pas le hongrois en s'installant en Hongrie, sa langue maternelle étant le russe et le français, son talent pour les langues lui a permis d'apprendre le hongrois rapidement et à un très haut niveau. D'autre part, grâce aux contacts riches avec différents cercles artistiques et intellectuels de Budapest et par son affinité pour la littérature, elle devient une lectrice assidue, fine et compétente de la littérature contemporaine hongroise. Elle connaît de près Dezső Szomori, Lajos Kassák, Dezső Kosztolányi, pour ne citer que quelques noms. Quant aux relations françaises du couple, malgré la césure causée par la Première Guerre mondiale, les contacts les plus serrés ont été conservés. Après une longue silence, c'est au début des années 20 que la correspondance régulière redémarre entre Ludmila Savitsky et Madame Rozsafy. Dezső Rozsafy, de son côté, a l'occasion dans les années 20 de se rendre à Paris plusieurs fois, mais sa femme n'y passera qu'une seule fois. Nous gardons une partie de cette correspondance dans le fonds familial, mais l'autre partie des lettres de Madame Rozsafy adressées à Ludmila Savitsky ont été retrouvées en France, à l'IMEC, l'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, qui rassemble, préserve des fonds d'archives consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre du XXe et XXIe siècle. L'IMEC est installé dans l'abbaye d'Ardennes, qui se trouve tout près de Caen. Grâce à une bourse obtenue de l'Institut français, j'ai eu l'occasion d'y faire des recherches en 2011 et de découvrir les plus de 25 lettres envoyées par mon arrière-grand-mère à Ludmila Savitsky, étant donné que Savitsky, après avoir quitté sa carrière d'actrice, est devenue une personnalité incontournable du monde de l'édition française entre les deux guerres. De fil en aiguille, de contact en contact, elle participe de plus en plus à la vie littéraire, mais à tout un éventail de milieux littéraires, d'éditeurs, de petits et de plus grandes revues. Elle commence par publier des poèmes, puis des romans pour enfants et des critiques pour des revues littéraires, comme le Mercure de France, Le Monde Nouveau, la revue juive de Genève, Les Temps Modernes, etc. Elle publie des critiques sur Ezra Pound, Charles Vidrac, Jean-Richard Bloch ou Julien Benda. Elle devient une traductrice renommée de la littérature russe et anglaise, comme celle de James Joyce, dont elle fut la première traductrice en français. C'est Ezra Pound qui lui a fait connaître en personne l'auteur irlandais et lui a proposé de traduire Dédalus, portrait de l'artiste jeune homme par lui-même, que Savitsky publie en 1924. D'autre part, elle est l'interprète française de Christopher Isherwood, Henry James ou Virginia Woolf, tout comme du poète symboliste russe Constantin Marmont. Dans son entourage immédiat se trouvent des écrivains et artistes français tels que André Spire, André Fontenard, Daniel Alévi, Gustave Kahn, Charles Vidrac, etc. C'est ce milieu d'écrivains, de poètes, dont les ouvrages sont régulièrement recommandés dans les lettres de Savitsky et que Madame Rozsafy a l'occasion de rencontrer lors de son séjour à Paris en 1924. Il se peut que c'est Savitsky qui l'a persuadé de s'essayer dans la traduction d'auteurs hongrois contemporains, qui est un sujet principal de leur correspondance à partir de 1924, lorsque Madame Rozsafy se met à traduire une pièce de théâtre de Sándor Bródy, Árnyékok, intitulée Les Ombres, puis une nouvelle de Béla Balázs, mais qu'elle abandonne finalement en disant que la nouvelle la dégoûte. Mais la plus grande entreprise de Madame Rozsafy est la traduction du roman de Kosztolányi, Néron, le poète sanglant, Et c'est la première fois qu'une traduction entière est faite à partir de l'œuvre prosaïque de Boustolani. Auparavant, il y avait d'autres tentatives de traduction sur sa demande, mais ni le premier traducteur, Lajos Fóti, ni la traductrice, Jola Lenei, n'a achevé la version française. Le choix de texte par Madame Rojafi n'est pas le fruit du hasard. Elle et son mari avaient des liens plus serrés avec Boustolani dans la période où Madame Rojafi s'est mise à la traduction du roman en 1927. Il se peut que c'est leur attirance commune pour la théosophie, mais aussi par l'intermédiaire de certaines connaissances communes, leur participation à des séances spiritistes qui les a rapprochés. D'autre part, il semble que Madame Rojafi a été sollicitée officiellement par une société littéraire, c'était peut-être la société La Fontaine, on ne sait pas exactement, qui l'a chargée de faire la traduction du roman et à servir de relais entre la société et la maison d'édition française. Parce qu'en effet, Madame Rojafi, via Madame Savitsky, avait des rapports directs à Léon Bazalgette, écrivain critique littéraire, un des fondateurs de la revue Europe en 1923, et qui était en même temps rédacteur aux éditions Rieder, où il était directeur de deux collections, celle des prosaïstes français contemporains et celle des prosaïstes étrangers modernes. C'est dans cette dernière que devait paraître le Néron. Boustolani lui aussi était en contact, même si très vague, avec Bazalgette, qui a déjà fait paraître une de ses nouvelles dans la revue Europe, et qui a traduit deux de ses poèmes du recueil Plainte d'un petit enfant, paru dans l'anthologie de la poésie hongroise contemporaine, sous la direction de Béla Kogány en 1927, chez l'éditeur Les Écrivains Réunis. D'après les sources, Boustolani était cette fois-ci optimiste que la traduction de son roman va pouvoir paraître en France grâce au contact plus direct avec le milieu de l'édition française. Madame Rojafi a terminé la traduction en février 1928, dont elle a envoyé le manuscrit à Madame Savitsky en tant que lectrice, mais Bazalgette, sans même voir la traduction, a finalement refusé ou supprimé l'édition du roman. Il s'ensuit de là que la publication de Néron n'a finalement pas eu lieu et Madame Rojafi, autant qu'on le sait aujourd'hui, a abandonné le projet. C'est beaucoup plus tard, en 1944, que le roman sous le titre Néron, le poète sanglant, apparut finalement en français dans la traduction d'Elisabeth Kovács. En 1930, on a encore la trace d'un projet plus concret, mais finalement avorté, avec François Gachot, que je vais citer d'après une lettre adressée à Madame Savitsky. C'est Madame Rojafi qui écrit. J'ai peu ou pas de traduction, puisque le livre de Korczak, que j'avais dû traduire avec Gachot, est déjà traduit. Il est vrai que Combraga, c'est un rédacteur chez Europe, vient de l'écrire à Gachot, cette traduction n'a pas été acceptée par Rieder car elle est mauvaise. Toujours est-il que c'est chose tombée pour le moment. J'avais eu songé de traduire un autre roman de Korczak, mais en le relisant, j'y ai renoncé. C'est trop genre Dostoïevski et je ne veux pas me mettre dans cet état d'esprit pour le moment. C'est également dans cette période-là, en 1930, que Ludmila Savitsky a été invitée par le Pen Club à Budapest, où il a fait deux conférences sur la littérature française contemporaine. Pendant ce temps, Dezső Rózsafi participe à l'organisation d'une grande exposition de peinture rétrospective intitulée « Exposition des artistes français d'avant-garde au Salon national » qui, après un hiatus de 20 ans, présente au public hongrois un choix de l'art contemporain français. Ses contacts serrés avec un certain nombre de représentants éminents de l'histoire de l'art français, comme Louis Réau, jouent un rôle prépondérant dans une connaissance plus approfondie et mieux diffusée de l'art hongrois en France, qui se manifeste par exemple dans le chapitre de Louis Réau consacré à la Hongrie, dans l'une des plus importantes éditions encyclopédiques de l'époque sur l'histoire de l'art d'André Michel, intitulée « L'histoire de l'art depuis les premiers temps chrétiens jusqu'à nos jours » paru en 1930. Tous ces efforts d'échange culturel franco-hongrois, au sens le plus strict du terme, vaut finalement à Dajeur Ojafi la décoration honorifique française de la Légion d'honneur en 1930. Sa maladie grave de tuberculose, attaquant sa colonne vertébrale, l'a empêché de finir sa dernière grande entreprise avec l'éditeur français Pierre Worms, intitulé « Les arts plastiques en Hongrie » de 1850 à 1932, dont le manuscrit attend d'être publié un jour. Merci de votre attention.